versets 1 à 29, et nous allons le lire au nom de Jésus. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva, alors il leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment, dès le début, Dieu a intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chair la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer des difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchaient la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabbas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils échangèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères et sœurs d'origine non-juifs qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes parmi de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués, de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle, vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Amen. Donc vous voyez, c'est fait exprès que le texte est assez long puisque c'est une lettre, une décision qui a été prise lors d'une réunion de synode. Alors, comme nous sommes ici à Cheftogne, parmi le GEC, nos jeunes du GEC, nous allons orienter notre message en conformité avec le thème, bien sûr, et aussi le lectionnaire. Le thème qui a été observé durant ce week-end, c'est les personnages bibliques. Et nous allons relever les différents acteurs mentionnés dans ce texte en parlant de personnages bibliques. En premier, quelques hommes de la Judée qui allaient exprès descendre à Antioche juste pour foutre la pagaille, comme on dit, mettre du désordre dans l'église. Ils obligeaient les nouveaux convertis, c'est-à-dire les non-juifs, à se faire circoncire selon la coutume juive, surtout coutume de Moïse. Et le mot « coutume » ici fait un écho particulier, parce que pour ces personnes-là, la loi de Moïse est considérée comme une coutume, et ça change tout. La circoncision n'est pas une coutume, c'était une marque d'alliance. Or, on l'a changée en coutume religieuse, et c'est là que ça blesse. Et c'est en respectant ces coutumes, d'après eux, que le salut soit assuré. À l'unanimité, tous les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas accepté cela. Deuxième groupe de personnages, Paul et Barnabé. Ils ont été convoqués à Jérusalem pour s'expliquer devant une sorte de synode pour apporter une explication pourquoi ils n'ont pas profité de la situation pour exiger aux non-juifs convertis au christianisme la circoncision. Pourquoi vous n'avez pas demandé la circoncision ? Et entre-temps, il faut savoir que pendant leur voyage vers Jérusalem, sur leur chemin, plus précisément en Phénicie et la Samarie, des non-juifs étaient aussi convertis pendant leur voyage. Et ce récit a donné plus de joie aux frères de Jérusalem, même si, au départ, ils étaient sur le point de réprimander Paul et Barnabé. Troisième groupe de personnes, des pharisiens. Pharisiens convertis au christianisme. C'est un courant de chrétiens qui voulaient conserver la tradition juive, comme ces hommes qui avaient exigé la circoncision. Et enfin, le quatrième groupe, les apôtres et les anciens. Ils ont d'abord examiné l'affaire, ensuite, ils ont organisé un débat pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et surtout, afin d'apporter des réponses claires sur le sujet du débat. Et je tiens à souligner, ils n'étaient pas là pour trouver un consensus, mais de voir vraiment la vérité biblique ou théologique et de trancher par la suite. Car si vous avez bien suivi la lecture, finalement les apôtres et les anciens se sont rangés du côté de Paul et de Barnabas. Non pas par solidarité apostolique, mais quand il faut préserver l'enseignement juste de l'Église, il ne faut pas tomber dans l'émotion quand on est à la recherche de la vérité. Ce n'est pas pour dire, voilà, pour ne pas froisser certaines personnes, pour que le consensus soit respecté. Non, quelle est la vérité biblique ? Et dans ce texte, les apôtres n'ont pas évité la confrontation. Ils n'ont pas évité le débat. Le débat était là et le débat était assez vif, si vous suivez la lecture. Au contraire, ils ont organisé le premier concile pour apporter une réponse claire sur ce en quoi l'Église croit. Et là, je profite de la situation pour dire que oui, malgré tout ces voix qui montent et ces débats assez houleux, je précise bien le débat en matière de foi, mais pas en organisation ou de structure, Dieu se révèle aussi à travers ces différentes conciles. Même s'il y a eu des tensions, Dieu est présent dans son Église. Et Dieu se révèle au milieu de ce débat assez vif. Et c'est l'une des attaques les plus virulentes de la part de nos détracteurs du christianisme qui ne croient pas en Jésus. Ils disent que les doctrines chrétiennes, la religion chrétienne, sont les fruits des conciles et des synodes. Au départ, quand j'avais entendu ce genre de critique, j'étais consterné. Mais après avoir lu les Actes des Apôtres, chapitre 15, Je peux vous dire, oui, le Seigneur œuvre aussi au milieu de ces tumultes de l'Église. Juste un exemple, on vient de fêter les 500 ans de la Réforme. C'est grâce à ces moments douloureux, il y avait des débats, il y avait même des anathèmes, vous êtes anathème, vous êtes maudit, mais au milieu de tout ce vacarme, l'histoire de l'Église que nous avons aujourd'hui a pu trouver son chemin. L'Église est née dans la douleur. L'Église n'est pas née qui vient du ciel comme si c'était dans une histoire de conte de fées. Non, l'Église est née dans la douleur. Et il faut souligner que ce ne sont pas les apôtres, ni Paul et Barnabé, qui ont voulu cette situation un peu compliquée. Car si vous avez suivi la lecture, en venant à Jérusalem, le Seigneur a mis des personnes sur leur route, comme si Dieu confirmait la chose avant le synode. Et les disciples, même les disciples ont été dépassés par les événements. Ils ne l'ont pas du tout programmé ni fait exprès. Alors tout compte fait, chers amis, les premiers problèmes qui arrivaient dans la première église, ce sont des problèmes que je qualifierais des problèmes bénis, de bons problèmes. Pourquoi je dis cela ? Parce que même Pierre, qui était responsable de la communauté, il était un peu désemparé quand il a vu Cornel et toute sa famille, ainsi que ses serviteurs étaient touchés par le Saint-Esprit. Lui, il croyait dans sa tête que le Saint-Esprit n'était destiné qu'aux Juifs. Et il l'a même avoué dans Actes chapitre 10, verset 34, il est dit « En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Il n'avait pas prévu que ces païens, entre guillemets, ces non-juifs, allaient débarquer dans l'Église. Pour eux, l'Église, c'était les 12, plus les 500 qui ont vu Jésus, plus ceux qui sont convertis en Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Changement de programme. Dieu a tout bouleversé. Et là, on voit bien la mentalité au tout début de l'Église. L'Église de Jésus-Christ est faite de femmes et d'hommes qui ont leurs faiblesses. Et on le voit ici, qui ont leurs limites, comme ces personnages que nous découvrons dans notre texte. Ne pensez pas que Pierre a tout de suite compris que l'Évangile est donné pour tout le monde. Même lui aussi, il a dû évoluer au fil des temps. Ne pensez pas aussi, par exemple, même Paul, qui a appelé l'ambassadeur de l'Église pagano-chrétienne, lui aussi auparavant était le chef de file de la persécution. Mais il a évolué. D'ailleurs, l'expansion de l'Église n'a pas été rendue possible si les premiers chrétiens n'étaient pas persécutés. C'est pour cela qu'on a choisi le thème « Continuons à écrire l'histoire de l'Église ». L'Église n'est pas figée. L'Église, elle se construit jour et nuit. Pourquoi on a choisi de faire le culte ici à Sherton ? Ça fait partie de l'histoire de l'Église qui est en marche, l'Église qui avance, l'Église qui peut changer de forme. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de modèle fixe, même s'il y a des balises qui sont données comme notre dogme. Dieu a confié, a continué à confier son Église à des hommes et des femmes de ce genre, des personnes qui ne vont pas s'entendre entre eux, mais il a confié son Église à tous ces gens-là. Il n'attend pas que nous ayons tout compris. Il nous forme, on va dire, sur le tas. D'ailleurs, ce qui est très étonnant dans la structure du livre des Actes, j'espère que vous avez déjà tous lu le livre des Actes, Paul qui monte à Jérusalem et qui savait ce qui lui attend, c'est-à-dire la mort. Et donc le lecteur, quand il suit cette histoire, il s'attend à lire un Paul qui va être exécuté. Or, on ne voit pas ça à la fin. On imagine que Paul a été tué à travers les textes. Et tout à coup, à la fin, il y a un changement de décor. Et d'après les spécialistes du livre des Actes, c'est une manière d'impliquer le lecteur dans l'histoire pour dire l'histoire de l'Église ne s'arrête pas à Paul. L'histoire de l'Église continue à travers le lecteur. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Si vous lisez la fin de l'Acte des Apôtres, il n'y a pas de fin. Tout à coup, ça s'est arrêté comme ça. Comme s'il y avait un vide. Non, c'est fait exprès. Bizarrement, on voit tout à coup un récit de naufrage. Or, avant, on disait que Paul allait mourir. Un récit de naufrage. On le retrouve paisiblement dans un appartement. Et Paul reçoit tous les jours ceux qui venaient le voir le soir. Il y a un problème d'anachronisme. Mais c'est fait. L'histoire se termine comme ça dans les Actes des Apôtres. On ne connaît pas la fin de l'histoire dans Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, le grand spécialiste de livre des Actes, Daniel Marguerat, parle de l'énigme de la fin des Actes. Ça reste toujours une énigme. Cela signifie quoi pour nous, les lecteurs, aujourd'hui? Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, l'auteur de ce livre, a laissé les pages blanches pour qu'à notre tour, nous continuions à écrire cette histoire de l'Église de Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, comme dans ce texte, tout le monde, sans exception, est acteur de l'histoire de l'Église. Pas simplement les disciples. Vous voyez, tout le monde avait leur place. Et ici, ce ne sont pas les pharisiens, ni les grands spécialistes de la loi, qui avaient le dernier mot, mais des païens. Les païens. Ces personnes si simples, considérées comme des chrétiens de seconde zone, aux yeux des juifs, c'est eux qui ont marqué, qui ont écrit l'histoire de l'Église. Et nous avons toujours admiré ces personnages bibliques, Pierre, Paul, tous ces grands. Mais finalement, les personnes comme étant des héros de la foi, ce ne sont pas des héros, mais des guides qui nous passent le relais. On vous a donné le relais, à vous de continuer. Même chose ici, l'image que nous donnons, c'est ça. Il y a l'assemblée d'église qui vient ici soutenir les jeunes, et ils passent le relais aux jeunes, c'est à vous de continuer, d'écrire l'église, puisque l'église de Jésus-Christ est vivante. L'histoire continue, c'est à notre tour de continuer les œuvres que les apôtres et les premiers croyants ont commencé. Tout cela pour une simple et bonne raison, Jésus avait dit clairement, j'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix. Ils deviendront un seul troupeau et un seul berger.